Les marchés boursiers ont beaucoup monté depuis quelques mois. Je regardais le S&P 500 entre la fin du mois d'octobre et la fin mars. On parlait d'une montée de 25 %. Et là, depuis le début avril, on sent vraiment là, une hésitation. Pour en discuter, le conseiller financier Frédéric Turcotte est avec nous. Comment ça va, Frédéric?
Salut Pierre, ça va très bien, merci.
Oui, les marchés ont beaucoup monté. Il ne faut pas se décourager. Il y a des gens qui vont dire « je vais attendre que ça replante ». Souvent, ça ne replante pas. Là, il peut y avoir des poches de décompression, mais il faut rester investi dans le marché.
Ah, tout à fait. Écoute, j'entends ça, Pierre, chaque semaine. C'est trop cher. Je ne veux pas investir là. Ça ne marche pas. On a manqué le bateau. On va attendre. Alors, ça, c'est une des jobs des conseillers financiers que c'est à chaque fois qu'on atteint des sommets ou des montées comme on a eu dans les derniers mois, comme tu l'as illustré, oui, il y a des petites baisses 5-10 % des fois de marché. Là, c'est des corrections, des prises de profit. Mais investir quand le haut du marché, on est dans le haut du marché, ça peut être intéressant quand même. J'ai sorti deux graphiques de JP Morgan Asset Management à travers les gens de fidélité qui nous ont fourni ça. Et ça montre quelque chose de vraiment intéressant. Ça dit, depuis 1950, le Standard & Poor's 500, on parle seulement du marché américain, qui est quand même le plus gros marché. Donc, depuis 1950, le plus haut sommet a été atteint 6,6 fois. Donc, il y a 6,6 fois de jour où le marché est à son sommet à vie. Okay? Alors, c'est quand même pas un si gros chiffre que ça. Mais par contre, sur le nombre de jours aussi, le plus haut sommet fait un plancher pour presque 30 % des journées. Donc, à 29,6 %, ça constitue le plancher sur lequel le marché va continuer de monter. Et là, c'est ce qui est le bout qui est vraiment intéressant, c'est le rendement du marché par la suite, une fois qu'on rembarque dans ce plancher-là. Alors, c'est certain qu'acheter dans un creux de marché, on s'entend que c'est ça l'idéal et c'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas toujours facile à voir et ce n'est pas toujours facile.
Ben, c'est pas toujours. Oui, ça est arrivé en 2008 quand le marché a crashé de 50 %. C'était une crise financière incroyable. Exact. 2020 avec la COVID, à part ça, ça a toujours monté. Là.
Exactement. Mais puis, alors, donc, si on essaie de jouer les devins et de se dire on va attendre le prochain cru, on manque le bateau.
Ben oui.
Alors, sur le rendement cumulatif sur 3 ans, du Standard & Poor's 500, si tu as acheté le plus haut dans le marché, bien, tu as fait 48,1 % versus 40 % dans n'importe quel autre moment. Donc, 48 % si tu as acheté sur le plancher qui s'est fait avec les sommets, le nouveau sommet atteint, ou si tu as acheté n'importe quand, ton rendement est à 40 % sur 3 ans. Sur 2 ans, c'est encore là de rendement cumulatif, 28,9 % si on entre au sommet. Puis à n'importe quel autre moment où tu embarques ton argent dans le marché, tu as fait 25 %. Donc, ouais, c'est quand même une différence importante pour quelqu'un qui achète toujours sur le haut du marché. Alors, donc, on s'entend, comme je l'ai dit, que le cru historique, c'est toujours plus le fun, mais c'est vraiment une statistique intéressante pour voir que même si on achète quand le marché est cher, on réussit quand même sur le long terme. Enfin, là, sur 3 ans, 2 ans, les statistiques, mais sur le long terme, on réussit quand même.
Ah, sur le long terme, c'est encore plus élevé parce que tu as manqué les journées payantes.
Exact.
C'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a des journées payantes, là, vous n'avez pas idée, quand tu manques 2-3 journées payantes dans l'année ou dans une période de temps très serrée, oublie ça, tu ne pourras pas te refaire.
L'autre tableau que j'ai sorti, c'est lié à la hausse des taux d'intérêt. Bon, on sait qu'ici, en Amérique du Nord, Canada, ça fait depuis juillet 2023 que les taux ont arrêté de monter. Si on arrive bientôt presque à 1 an. C'est quand même incroyable, d'un an de plateau de hausse de taux d'intérêt. Et là, si on regarde ça historiquement avec les données des périodes 88-89, 94-95, 2015-2018, puis là, on fait un graphique, tes auditeurs, il faut qu'ils visionnent ça. On fait un graphique. À l'horizontale, c'est les mois de progression du marché et à la verticale, c'est le rendement. Alors, on part de zéro quand c'est la dernière hausse. Donc, juillet 23, presque un an maintenant. Et là, on regarde les périodes que je vous ai mentionnées où il y a eu cette fin de hausse des taux. Et les graphiques sont tous dans le positif, ça monte. Et puis, notre période, on a 9 mois de fait à peu près. Donc, on est à 22-23. On est en train de suivre cette tendance-là. Donc, une fin de hausse de taux, ça veut dire un marché boursier. Généralement, si on se réfère aux périodes passées, de façon positive pour les actions. Puis, la même chose pour les obligations aussi. On se dit toujours, est-ce que les obligations vont finalement monter après un arrêt de hausse des taux? Encore, si on regarde les périodes, puis je t'ai envoyé les graphiques, Pierre, tu peux les voir, les commenter. Si on regarde les périodes subséquentes de fin de hausse de taux Encore celle que l'on, dans laquelle nous sommes présentement, on suit une tendance à la hausse, peut-être moins évidente un petit peu, mais on voit quand même que l'effet de la fin de la hausse des taux sur le marché obligataire aussi, c'est positif. Alors, donc, sous, tous ceux qui ont peur de rentrer dans le marché, que ce soit obligataire ou des actions, parce qu'on est haut, on est dans un contexte particulier là, de fin de hausse de taux déjà depuis plusieurs mois, eh bien, je pense qu'il faut quand même considérer ces données-là historiques, qui ne sont pas nécessairement les données du futur, mais quand même qui nous donnent une très bonne indication sur ce qui peut arriver.
Oui, puis tu peux au pire aller, si le marché baisse, tu peux en racheter pour faire baisser ton coût d'acquisition. Là.
Là. Oui, tout
T'sais,
à fait.
c'est ce que les conseillers financiers disent de faire aussi, là,
Oui.
conseil d'affaires. Donc voilà pour cette peur d'investir dans le haut du marché, où on pense que c'est un haut de marché, là, évidemment. Les meilleurs et les pires fonds négociés en bourse pour le premier trimestre de 2024.
Oui, bon, tu l'as mentionné en introduction, le marché a performé depuis octobre de façon incroyable. Alors, écoute, je me suis intéressé à aller voir ce que les fonds négociés en bourse, les ETF, ont donné dans le premier trimestre, donc les 3 premiers mois de l'année 2024. Alors, on parle souvent aussi, toi et moi, que ceux qui redécollent rapidement, c'est les small caps. Hein. La définition de small cap aux États-Unis, là, c'est en bas de 3,5 milliards de capitalisation boursière. 3,5 à 9, c'est mid cap. Puis en haut de 9 milliards de capitalisation boursière, c'est des large cap, là, les grandes compagnies que tout le monde connaît. Alors, celle qui a performé le mieux, dans les premiers 3 mois de l'année, c'est un indice qui regroupe 80 compagnies. C'est Invesco qui fait ça. C'est Small et Mid Cap du Standard & Poor's. C'est des 80 compagnies de qualité qui a donné un rendement de 24,34 %. Puis les deux autres le suivent à 23 %, 22 %. Donc, ce sont des fonds, des indices basés, faits par la compagnie Invesco. Et donc, qui ont donné quand même un rendement sur 3 mois. Donc, dans une diversification de portefeuille, le small et le mid cap doivent être présents. Et c'est quelque chose qui doit donner un rendement lorsqu'on est dans un retour. En fait, on n'est pas caractérisé la dernière période comme étant un retour de l'économie en force, mais ça a été un peu quand même le cas. Aux États-Unis, la consommation est là, le chômage est bas. Alors, ces indices-là ont très bien performé. Puis, je suis allé voir en dessous du capot un peu pour comprendre un peu quelles compagnies se retrouvent dans ces 80 compagnies-là de cet indice d'Invesco. Alors, il y en a très peu de connues. C'est toutes des compagnies. La première position, c'est Williams Sonoma. Ils font des produits de cuisine, des machines à café, des meubles, des accessoires de maison. Donc, il y a la première compagnie qui compose cet indice-là. Après ça, deuxième, c'est une solution de transport aux États-Unis, Manhattan Associates. La plus connue dans les 10 premières, là, c'est Pierre, tu dois la connaître certainement. Si je te dis la Panthère Rose, qui dans les matériaux de construction, dans la laine minérale,
Oui.
Owen Corning, donc c'est la compagnie qui fabrique cet isolant-là, qui fait partie donc de cet indice, qui est une des 10 premières positions donc de l'indice. Et donc c'est des compagnies que l'on ne connaît peu, pas du tout, mais qui sont regroupées dans un indice, un peu comme dans un fonds mutuel, et qui ont donné quand même un rendement intéressant. Du côté des pires, les pires, c'est ce qu'on discutait il y a quelques années, toi et moi, ARK Innovation. Alors là, ils ont fait moins 7 % de rendement dans
Ce
le
qui n'est pas
premier.
si pire parce qu'elle a déjà fait pire que ça.
Ah oui, tout à fait. Il a tombé en bas de la chaise plusieurs fois avec des baisses plus importantes, mais moins 7 est quand même important, alors que le reste du marché montait. Et le deuxième également, c'est moins 3, c'est le ARK, le ETF qui couvre le secteur de l'aérospatiale et de l'innovation à moins 3,7. Alors, puis la liste descend comme ça. Donc voilà, je voulais juste te présenter un petit peu donc les indices, qui restent quand même un très bon outil, peu coûteux hein, et fiscalement aussi intéressant pour les investisseurs pour suivre des secteurs ou des géographies particulières. Et ceux qui pensent que le marché va battre des indices, va battre des gestionnaires de fonds, bien c'est souvent des gens qui sont investis dans des indices et dans le marché complètement sans passer par les fonds mutuels.
Voilà, le grand patron de JP Morgan, M. Diamond, a tonné cette semaine, fait paraître, comme il fait à chaque année, là, sa lettre aux actionnaires de la
Exact.
banque. Et
Oui.
quand même, Jamie Dimon, ben, c'est quelqu'un qui est influent. Il est là depuis quoi? Plus de 20 ans, je
Ah,
pense, à la tête de la banque.
oui, ça en fait des années. Écoute, il est là depuis
Et
2006, ça, Pierre.
très intéressant, là. Je veux dire, lui, il a quand même parlé là, que les taux d'intérêt allaient remonter éventuellement, peut-être. Ce qu'on a vu aujourd'hui.
Ouais.
Il parle peut-être même d'une heureuse hausse des taux de directeur. des taux des grandes banques centrales, puis il parle aussi de l'intelligence artificielle.
Oui, tout à fait. Écoute, c'est un bonhomme, il a 68 ans, il vaut 2,2 milliards, président de JP Morgan Chase, qui est la plus grosse banque au monde, plus grande américaine et la plus grosse au monde en termes de capitalisation boursière. Donc, c'est énorme comme banque aux États-Unis. Alors, forcément, c'est des gens qui ont une place importante dans le discours économique aux États-Unis. Ils sont souvent interviewés par les réseaux financiers pour parler, donner leur opinion. Très souvent, ils se trompent, hein, parce qu'on sait que l'économie, c'est pas une science exacte.
Exact, ouais.
On peut errer complètement dans nos prédictions. Mais par contre, ce qui est intéressant de démontrer, de voir, bon, il y a toute une équipe derrière lui, là, c'est pas lui, je crois bien, qui a écrit les 58 pages que je me suis tapé, mais il y a toute une équipe quand même qui réfléchissent et ils donnent des grandes directives un peu et ils sont souvent des précurseurs bon, oui, il y a des compagnies en techno qui sont des innovateurs qui font plein de nouvelles choses pour faciliter la vie et puis pour améliorer notre sort, mais les banques, c'est quand même, on a quand même un portrait d'une institution un peu plus pépère, un peu plus qui va suivre la vague, mais qui va quand même avoir des pratiques de gestion très classiques et tout ça. Alors, quand on va lire un peu ce que Diamond écrit dans son rapport, dans sa lettre aux actionnaires, son premier sujet, c'est l'intelligence artificielle. Alors, écoute, il dit dans ça que, là, j'ai noté quelques extraits intéressants. Il dit, là, présentement, l'intelligence artificielle est utilisée à l'intérieur de la banque de plus de 400 façons différentes. Donc, de la détection de fraude à rechercher des nouvelles stratégies de marketing, d'utiliser pour le service client, le développement de logiciels, la cybersécurité. Alors, c'est déjà, il y a une armée de monde qui travaille en intelligence artificielle à l'intérieur de la banque et en fait du groupe. Et donc, ils ne savent pas encore, bien sûr, à la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle va changer notre vie courante, mais il dit, et là je le cite, on sait pas, bien que nous ne connaissons pas l'effet total ni de la vitesse précise à laquelle l'intelligence artificielle changera notre activité, ni comment elle affectera notre société dans son ensemble, nous sommes totalement convaincus que les conséquences seront extraordinaires et peut-être même aussi transformationnelles que certaines inventions technologiques majeures. Des centaines d'années écoulées, pensez à l'imprimerie, à la machine à vapeur, l'électricité, l'informatique, l'Internet, entre autres. Alors, pour ce bonhomme-là, donc, qui donne son avis, c'est vraiment quelque chose de très gros et c'est pas pour rien qu'il le place. Bon, il va commenter aussi l'actualité économique et tout ça avec la hausse des taux, le ralentissement que présentement on n'a pas encore aux États-Unis, l'inflation qui demeure. Alors, mais c'est intéressant de voir un peu sa perspective pour voir
Oui.
comment ça s'amène dans une économie puis l'impact de cette intelligence artificielle-là dans nos vies.
Ouais, puis lui, il a 68 ans, là. Pensez-y, il vaut 2,2 milliards. Il dirige la plus importante banque au monde et la plus importante banque aux États-Unis. Il pourrait s'en aller, là, prendre sa retraite. Je sais qu'il a un
Oui,
plan de
effectivement.
succession, mais il aime encore son travail.
Ah, tout à
Il
fait.
aime
Ouais.
donner son opinion. Il aime être influent. Donc,
Ouais.
c'est vraiment un cerveau, là.
Ah, puis deuxième sujet aussi, que je ne peux pas passer à côté de t'en parler un peu, c'est tout récent, là, c'est Google qui a lancé. C'est encore des nouveaux outils dans la course à la montre un peu contre
Ouais.
les autres joueurs qui ont des plateformes d'intelligence artificielle qu'on commence de plus en plus à utiliser. Alors, on en a parlé, je pense, bien dans les semaines passées de ça. Mais ils ont lancé le cloud AI. Alors, ils ont upgradé leur solution Gemini et ils ont aussi lancé des processeurs qu'ils appellent Axion. Alors, encore là, c'est vraiment impressionnant de penser comment Google, qui est notre outil de recherche, le bon vieux Google Search dans notre utilisation quotidienne sur nos téléphones et sur notre ordinateur. Mais écoute, ça va passer à une deuxième étape très bientôt, là. Alors, ils vont vraiment intégrer les fonctions d'intelligence artificielle à même leur solution et toute la gamme des produits que Google a.
Ah, ça va exploser, là.
Écoute, le Google Meet que plusieurs utilisent, qui est la version Zoom un peu, le compétiteur de Zoom ou de Teams avec Microsoft. Donc, le Google Meet va intégrer très bientôt là, à 10$ par mois. Ça risque de faire mal un peu aussi à la compétition, mais c'est très bien pour nous consommateurs que nous sommes de ces produits-là. Alors, ils vont intégrer les capacités d'intelligence artificielle pour faire, ça va s'appeler AI Meetings. Et donc, ça va intégrer des fonctions de bavardage quand tu chattes avec tes collègues en ligne directement en même temps que tu parles, synthétiser toutes les discussions qui vont être prises dans un Zoom ou un Team, un Meet, comme on l'appelle, l'analyse de la discussion, faire la traduction simultanée. Tout ça va se faire pour 10$ par mois dans une prochaine version très bientôt là, de Google Meet. grâce à l'intelligence artificielle. Alors, imagine un peu, donc ta propre présentation, tu présentes devant 10 personnes, Pierre, ta propre présentation va être faite par l'intelligence artificielle. Tu vas en parler avec 9 autres de tes collègues et qui vont apporter du input à ta présentation. Tout ça va être synthétisé par l'intelligence artificielle. Et après ça, traduit simultanément si tu as des gens qui parlent d'autres langues. Et tout ça, par la suite, un sommaire qui est fait et puis présenté à tes patrons si c'est le cas dans ta business que tu as ce travail-là à faire. Alors, on est en train de complètement de penser à changer notre travail dans les entreprises, à améliorer la productivité grandement. Ça va améliorer aussi. Et quand on améliore la productivité d'une entreprise, on améliore sa rentabilité. Alors, c'est le lien qu'on
Oui,
peut faire avec la bourse.
c'est ça. Puis il y a de la valeur ajoutée parce que là, ton employé qui ne faisait que prendre des notes sur des meetings, ben, tu vas pouvoir peut-être le mettre à autre chose, peut-être à vendre
Exact.
et
Oui.
rapporter davantage de dollars dans l'entreprise, donc être plus profitable,
Oui.
rentable. Donc c'est un peu ça, là. C'est ce qu'on
Exact.
voit.
Oui.
Tu sais, beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle. Moi, je pense que ça va améliorer de beaucoup des métiers et ça va amener une création de nouveaux emplois qu'on n'a pas encore vus
Ah,
aujourd'hui.
tout à fait, tout à fait. C'est certain qu'il y a des secteurs qui vont un peu peut-être être transformés, comme tu le dis.
Ouais.
Un autre produit que Google lance, ça s'appelle Google Vids pour faire des vidéos. Tu deviens un monteur vidéo de toi-même. Alors, avec l'intelligence artificielle, il va aller chercher les photos, les vidéos, les textes, lire les PDF, qui est de l'information non organisée, nécessaire, pas toujours. Et alors, il va ramasser ça. Il peut faire une trame narrative, ajouter des images externes qu'il va aller chercher à l'extérieur de ton environnement de travail ou sur ton disque dur. Et tout ça, grâce à l'intelligence artificielle, peut faire une vidéo, une présentation, absolument en claquement de doigts, dans quelques minutes que ça peut se faire, ce travail-là.
Exact.
Alors, on voit donc les compagnies qui, en plus de profiter de lancer des microprocesseurs, des GPU très avancés, parce que chacune de ces grandes compagnies-là, Google, Microsoft, Apple, le font. Donc, se servent, et dans la présentation aussi de Google, ils parlent beaucoup de Nvidia. Présentement, ils travaillent avec beaucoup, beaucoup de microprocesseurs, de la capacité de calcul de Nvidia, mais ils vont quand même aussi développer leur propre
Oui.
processeur.
Ouais, fait que Google, ça va être un titre à surveiller, là, hein,
Ah,
clairement, là.
oui, tout à fait. Et tout ça, bien écoute, ça amène donc du profit de plus pour ces entreprises-là, des nouveaux produits, des nouvelles solutions que d'autres entreprises, d'autres clients vont utiliser. Tout ça dans le cloud, dans le nuage. Et donc, c'est vraiment une période encore intéressante pour les gens qui suivent la techno et qui veulent bénéficier de ça dans des titres boursiers, dans des indices qui couvrent ce secteur-là.
Voilà, Frédéric, on doit dire que là, on doit mettre nos auditeurs en garde, hein? On n'a pas de conseils financiers ici, là, dans
Ben
ce
non,
temps de
écoute, tout ce qu'on
jaser.
discute, on travaille, je prépare ça, donc à titre de conseiller, mais auprès de Valeurs Mobilières Peak, mais est-ce que c'est des sources fiables et pertinentes? Et ce qu'on discute aujourd'hui, c'est d'ordre général et ça s'avère incomplet par rapport à votre situation personnelle. Ce sont mes commentaires et non pas des conseils d'investissement et ça ne reflète pas ce que Valeurs Mobilières Peak peut penser. Ils ne sont pas responsables du contenu de mes commentaires, Pierre.
Voilà, mais si on veut des conseils financiers, t'en fais, là. On peut te
Oui.
rejoindre sur ton site web, frédéricturcotte.com. Tu fais du Zoom,
Exactement.
hein, aussi?
Oui, on travaille en Zoom, on se rencontre et puis on discute un peu des portefeuilles. Les gens, je leur demande les devoirs, je leur dis envoyez-moi vos relevés pour me donner une idée de ce que vous avez, où vous en êtes. Et puis après, si on discute, on pourra voir qu'est-ce que les gens, où en sont dans leur vie, leur famille et leur situation financière générale. Et je leur donne un avis. Et puis après ça, bien, s'ils sont intéressés, s'ils aiment ce que je raconte, bien, ils peuvent venir avec moi. Ça me fait plaisir de grossir ma clientèle encore avec mon fils qui s'en vient travailler avec nous. Donc, on a des bras de plus là. Aussitôt qu'il termine son université, on va le mettre à la tâche, n'inquiète pas.
Qu'est-ce que tu vois ces temps-ci? Qu'est-ce que tu vois comme tendance, les gens qui veulent, qui ont des placements éparpillés, qui ont essayé de gérer tant bien que mal leurs placements personnels, là, boursiers et autres, obligataires, puis là, à un moment donné, ils comprennent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça, hein, on le voit ça.
Bien, oui, c'est certain que les gens parfois, je dirais qu'il y a deux catégories. Il y a des gens qui s'intéressent vraiment un peu, donc qui écoutent entre autres ton podcast, puis qui ont de l'intérêt à suivre la chose financière. Mais la très grande partie n'ont pas vraiment le temps, pas l'intérêt. Ils se sont essayés très souvent un petit peu à la bourse. Ils ont fait.
Sont fait battre, sont fait donner une volée, oui.
Ouais, parce que c'est difficile, hein. On a déjà parlé des biais cognitifs, là. Quand c'est le temps de vendre, prendre des profits, si tu veux faire un peu plus du swing trading dans tes positions, comment tu fais une base solide d'un portefeuille? Comment est-ce que tu réussis à te dire, bon, je me ferai pas trop battre dans le marché sur les prochaines années? Comment déconnecter? Des fois, je le dis aux gens, allez pas voir vos relevés dans les périodes où ça brasse un peu plus, là. Je leur dis, allez pas voir vos relevés à tous les jours, allez-y à tous les 6 mois, puis vous avez des très grandes chances qu'à tous les 6 mois, vous allez
Oui.
être heureux de voir les résultats que la bourse vous a apporté.
Non,
Mais
effectivement.
c'est pas juste ça aussi, hein. C'est la gestion du passif, c'est la gestion des hypothèques de ta maison, ton régime épargne étude, ton CELI, comment est-ce que tu es proche de la retraite. Donc, il y a une série de questions et de choses qui touchent le monde financier et c'est notre travail à nous d'apporter des réponses et d'aider, accompagner les gens là-dedans.
Oui, puis votre travail, c'est d'optimiser tous ces produits financiers-là
Oui.
pour que l'épargnant, lui, il arrive à retraite puis il ne soit pas complètement devant rien, là.
Oui, puis la retraite qu'on repousse, on dit aux gens, arrêtez pas de travailler, prenez le temps de réaliser peut-être un deuxième type d'emploi une fois que votre carrière principale est terminée, ça parce que les gens vivent beaucoup plus longtemps. Alors, c'est le genre de conseil, c'est le genre de situation qui s'adapte à, qui est différent pour chacun, mais qui fait l'objet de discussion quand on a un conseiller financier dans sa vie.
Voilà, Frédéric Turcotte, merci beaucoup. On se reparle prochainement. Bye.
Plaisir, Pierre, salut.